La porte qui donnait accès aux appartements s'ouvrit et Mathieu de Try parut annonçant « Messire, le roi !» Valois se leva le premier et s'inclina avec une déférence si marquée qu'elle en devenait majestueusement protectrice. Le hutin dit « Excusez, messire, mon retard !» Il s'interrompit aussitôt, mécontent de cette sotte déclaration. Il avait oublié qu'il était le roi et qu'il lui appartenait d'entrer le dernier au conseil. Il fut à nouveau saisi d'un malaise anxieux comme la veille à Saint-Denis et comme la nuit précédente dans le lit paternel. L'heure était venue vraiment de se montrer roi. Mais la vertu royale n'est pas une disposition qui se manifeste par miracle. Louis, les bras ballants, les yeux rouges, ne bougeait pas. Il négligeait de s'asseoir et de faire asseoir le conseil. Les secondes passaient, le silence devenait pénible. Mathieu de Try eut le geste qu'il fallait. Il tira ostensiblement le fauteuil royal, Louis s'assit et murmura « Siégez, messire ». Il revit en pensée son père à cette même place et prit machinalement sa pose, les deux mains à plat sur les accoudoirs du fauteuil. Cela lui rendit un peu d'assurance. Se tournant alors vers le comte de Poitiers, il dit « Mon frère, ma première décision vous regarde. J'entends, lorsque le deuil de cour aura pris fin, vous conférer la pairie pour votre comté de Poitiers, afin que vous soyez au nombre des pairs et m'aidiez à soutenir le poids de la couronne. » Puis, s'adressant à son second frère, « À vous, Charles, j'ai vouloir de donner en fief et apanage le comté de la Marche, avec les droits et les revenus qui s'y attachent. » Les deux princes se levèrent et vinrent de part et d'autre du siège royal, baiser chacun l'une des mains de leur aîné en signe de merci. Les mesures qui les touchaient n'étaient ni exceptionnelles ni inattendues. L'attribution de la pairie au premier frère du roi constituait une sorte d'usage. Et d'autre part, il était su depuis longtemps que le comté de la Marche, racheté par Philippe le Bel au Lusignan, irait au jeune Charles. Monseigneur de Valois ne s'en rengorgea pas moins, comme si l'initiative lui en revenait. Et il eut à l'adresse des deux princes un petit geste qui voulait exprimer « Vous voyez, j'ai bien travaillé pour vous ». Mais Louis X, pour sa part, n'était pas aussi satisfait, car il avait omis de commencer par rendre hommage à la mémoire de son père et de parler de la continuité du pouvoir. Les deux belles phrases qu'il avait préparées lui étaient sorties de l'esprit. À présent, il ne savait plus comment enchaîner. Un silence s'établit à nouveau, gênant et pesant. Quelqu'un manquait trop évidemment à cette assemblée. Le mort. Enguerrand de Marigny regardait le jeune roi et attendait visiblement que celui-ci prononçât « Messire, je vous confirme en vos charges de coadjuteur et recteur général du royaume ». Rien ne venant, Marigny fit comme si cela avait été dit et demanda « De quelles affaires, sire, désirez-vous être informé ? De la rentrée des aides et tailles, de l'état du trésor, des arrêts du Parlement, de la disette qui sévit dans les provinces, de la position des garnisons, de la situation en Flandre, des requêtes présentées par vos barons de Bourgogne et de Champagne ?» Ce qui signifiait en clair « Sire, voilà les questions dont je m'occupe » et bien d'autres encore, dont je pourrais vous égrener plus longuement le chapelet. Pensez-vous être capable de vous passer de moi ? Le hutin se tourna vers son oncle Valois d'un air qui mendiait appui.